Bonsoir, nous sommes vendredi 26 août 2005 et comme chaque vendredi, c'est la tribune de la presse au cours de laquelle nous discutons de l'actualité de la semaine avec nos confrères journalistes. À la une de cette tribune de la presse, 12 militaires congolais issus de la 4e brigade intégrée sont décédés du choléra. Le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies parlait hier de 400 militaires déjà atteints par cette épidémie. Ces derniers étaient en partance pour l'Ituri, dans la province orientale. Tripartite RDC, Rwanda, Ouganda, tenue cette semaine à Kigali au Rwanda, sous la supervision des États-Unis, les rebelles Hutus rwandais ont un mois pour quitter la RDC. C'est l'ultimatum lancé à ces groupes armés rwandais à l'issue de la clôture de cette tripartite intervenue hier jeudi. Enfin, où en est-on avec le processus électoral en RDC pour l'accélérer? Olivier Kamitat, président de l'Assemblée nationale, appelle à la convocation par le chef de l'État d'une session extraordinaire du Parlement. Il s'agira d'adopter les lois restantes. Pour analyser l'actualité de la semaine, nous avons invité quelques confrères. Arnaud Zeitmann, correspondant de la BBC en RDC, Claude Moukeba, journaliste à la télévision nationale RTNC, ainsi que notre confrère Kalengeyan Yantumbi, directeur de la radio Fontaine et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Au moins 12 morts, c'est le bilan provisoire d'une épidémie de choléra qui s'est déclarée parmi les soldats de la 4e brigade intégrée à Goma et qui était en route vers l'Ituri. Décidément, Arnaud Zeitmann, ça ne commence pas très bien pour cette nouvelle brigade qui devrait en principe aller aider les autres brigades qui sont déjà là-bas à sécuriser l'Ituri.
Oui, et puis le défi est immense et on s'aperçoit en fait au regard de cet événement que l'armée a non seulement une question d'armement avec laquelle elle doit travailler, comment s'assurer qu'elle a les moyens à disposition. Il y a un problème d'organisation de l'armée. On sait que moi souvent que quand je me rends dans l'est du pays, je parle aux militaires sur le terrain et puis ils disent que ils sont pas payés ou bien ils sont payés un tout petit peu, mais c'est insuffisant. Après une semaine après la paye, il n'y a plus rien. Donc et ça représente vraiment un problème, un poids pour les populations de la région. Et maintenant, effectivement, en dépit de tous ces problèmes, on s'aperçoit qu'il y a également un problème sanitaire. Cette brigade joue de malchance, c'est évident. Le ministre de la Défense, Adefono Sumba, est sur place. On sait qu'il y a MSF qui mène des opérations d'urgence pour essayer de guérir les centaines de soldats qui sont infestés. La question, c'est effectivement quand est-ce qu'ils pourront être sur le terrain, quand est-ce qu'ils pourront faire leur travail, parce que on s'en est aperçu d'ailleurs avec cette attaque qui a eu, cette double attaque qui a eu récemment sur des bureaux de vote en début de semaine. Il y a un besoin, on s'aperçoit que la MONUC n'est pas en mesure non plus d'assurer la sécurité dans chaque bureau de vote. Donc c'est clair que pour l'instant, la pression repose sur l'armée congolaise, sur le gouvernement. La MONUC botte en touche, en quelque sorte. On s'aperçoit que la MONUC dit toujours « Bon, ce gouvernement a une armée, adressez-vous au gouvernement de ce pays, nous ne pouvons pas arranger tous les problèmes de ce pays. » Et maintenant, c'est vrai qu'il s'agit pour le gouvernement de faire ses preuves. Et j'ai l'impression qu'on s'aperçoit aussi que finalement, c'est tout un puzzle qui doit se mettre en place. Hein. Il y a l'armée, mais il y a aussi les structures sanitaires, il y a aussi les routes. Tout ça va ensemble et le pays sort de la guerre. Et on s'aperçoit effectivement que c'est difficile pour ce pays et pour des militaires de pouvoir mener à bien une tâche aussi difficile en plus que celle qui se présente à eux en Ituri.
Voilà. Ouais. Décidément, on sent une certaine pression. On a besoin du renfort des troupes, comme l'avait d'ailleurs souligné les derniers communiqués du SIAT. Il faut renforcer la présence militaire des FRDC en Ituri pour pouvoir sécuriser ce district. Mais décidément, cette 4e brigade n'a pas eu beaucoup de chance. Au lieu de 45 jours de brassage, elle a au contraire passé à peu près 6 mois à Mushaki. Mais maintenant, ça ne semble toujours pas marcher.
Oui, ça semble toujours marcher et vous revenez deux fois déjà sur le mot chance. Je crois que un peu de chance, c'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait parler de l'impréparation et tout ça? Est-ce que toutes les conditions ont été bien analysées pour ce travail de brassage au sein de cette brigade? Quand on parle ici d'une brigade qui partait de quelque part pour un autre lieu, et on s'aperçoit en ce moment-là qu'il y a des malades, on doit se poser des questions d'où ils viennent, qu'est-ce qui est resté, et où ils vont aller, qu'est-ce qui va se faire? Parce que tout ça, ça se tient finalement, comme disait mon collègue tout à l'heure, il n'y a qu'une question d'argent. Quand on connaît le choléra, sa capacité de contagion et les conditions dans lesquelles le choléra peut ravager, on peut se dire quand même qu'il y a comme une espèce de lien entre le salaire qui n'arrive toujours pas, et ou alors qui arrive et 2 jours, comme il disait tantôt, on n'a plus rien. Ce sont des conditions qui trop propice quand même pour que le choléra ravage davantage. Donc, on peut penser que, chance, je ne voudrais pas rentrer surtout dans ce terrain-là. Je pense plutôt qu'il y a eu un peu d'impréparation quand même. Alors qu'on a parlé de ce travail de brassage pendant longtemps, on aurait dû prendre beaucoup de précautions quand même.
Nous nous rendons à Lubumbashi. Kalenge Yan Yantumbi, vous êtes le directeur de la radio Fontaine et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Est-ce que vous pensez que c'est le résultat d'une certaine impréparation? Parce que après la fin officielle de leur formation, intervenue à Goma, ils étaient d'abord installés à Kinyogote, à quelques kilomètres de Goma, avant d'aller en Ituri. Et là, les conditions sanitaires n'étaient pas du tout bonnes. Ils n'avaient pas de l'eau potable.
Exactement, exactement, Claude Quinza. Il s'agit là d'un problème sérieux qu'il faut prendre très au sérieux. On ne peut pas comprendre, l'opinion naturellement ne peut pas comprendre que à quelques moments seulement après leur sortie du brassage, vers la route de leur affectation, eh bien, ce problème-là surgit. C'est qu'il y a eu quelque part des responsabilités très grandes, très énormes, qui n'ont pas été prises en compte et qu'on a mis à côté les conditions sanitaires d'hébergement de la brigade. Quand on sait les moyens qui ont été alloués pour la formation de cette brigade, mais ça doit interpeller. On ne peut pas dépenser de l'argent pour former des gens, des groupes brassés, des soldats qui doivent être comme, évidemment, les soldats de la paix, de l'intégration, de la réunification du pays. On ne peut pas perdre de l'argent pour les former, les brasser, et puis après les livrer à une maladie comme ça, le choléra. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. Il y a là donc, je veux dire, des responsabilités, une certaine négligence de la part des chefs, des responsables militaires et politiques qui n'ont pas pu mettre peut-être le paquet pour les conditions d'hébergement de ces militaires. On sait que les choléras, je ne suis pas un médecin, mais on sait que les choléras s'appellent une maladie de main sale, c'est qu'on a laissé les militaires dans de mauvaises conditions sanitaires, sans leur fournir de l'eau potable. Pourtant, c'est même la première denrée de subsistance qu'il faut disposer pour les troupes quand on voudrait faire de l'armée une armée bien encadrée. Il y a là un problème. Mais ce problème suscite, mes confrères l'ont dit, le problème plus général de l'encadrement des soldats sur l'ensemble du territoire. Il y a là tout ce problème-là, parce qu'on sait que déjà les soldats sont paupérisés, clochardisés, dans un misérabilisme indicible, on n'a même pas de mots pour le qualifier. Et donc tout ce problème-là, bon, c'est un grand problème. Il faudra que peut-être on s'y penche sérieusement, mais déjà le problème, quand on perd 12 personnes, 12 hommes formés, et puis il y a 400 militaires qui sont atteints, ça doit interpeller. Il y a donc là, une grave négligence, mais une négligence coupable de la part de certains responsables militaires qui ont planifié cette opération.
Oui, Arnaud Weidmann.
Si je peux ajouter quelque chose, l'armée, c'est une institution qui repose sur la question de la hiérarchie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'une armée fonctionne, c'est-à-dire que l'ordre qui vient d'en haut soit appliqué en bas. Quand on s'aperçoit que l'argent qui vient d'en haut n'arrive pas en bas, c'est qu'il y a un vrai problème de hiérarchie au sein de l'armée. Et ça interpelle, bon, non seulement effectivement pour le fait que l'argent, semble-t-il, fond en cours de route, mais aussi même dans le cadre d'opérations, on peut se demander si les ordres qui arrivent, qui viennent d'en haut, vont être appliquées en bas. Et on se rappelle d'ailleurs lors de la campagne de Kanyabayonga, on se rappelle que il y avait eu de graves manquements de la part de l'armée congolaise lorsqu'il y avait eu ces divergences entre des unités qui refusaient d'être brassées. Rappelez-vous, les militaires avaient été envoyés, les militaires de Jean-Pierre Bemba et du président Kabila, donc des ex-rebelles MLC et des ex-FAC avaient été envoyés, ainsi que les hommes de Moussa Niamouissi avaient été envoyés sous un même drapeau, étaient censés travailler ensemble, et ils avaient subi une débâcle parce que les moyens qui étaient débloqués n'arrivaient pas sur place. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'information avait filtré de la part de certains officiels au sein du gouvernement, qui, notamment au sein de l'ex-composante RCD-KML, de Moussa Niamouissi, qui disait qu'il y avait un vrai problème, que cet événement avait mis en lumière des problèmes au sein de l'armée, et on se demande aujourd'hui si finalement tous ces problèmes ont été résolus.
Claude Moukeba, Arnaud Zeitmann vient d'évoquer le problème d'argent. Est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas de moyens de moyens financiers conséquents pour l'armée, quand bien même on formerait 16 brigades, elle n'arriverait pas à remplir, à jouer le rôle qu'on attend de ces brigades?
Mais c'est clair, on ne peut pas travailler sans moyens. Il faut bien que l'armée, pour qu'elle se déploie, il faut de l'argent, il faut avoir des munitions, donc il faut absolument avoir de l'argent. Mais j'ai l'impression que dans ce pays, ce n'est pas l'argent qui manque plutôt, parce qu'on parle de ce montant de c'est pas 8 millions qui chaque mois passent comme ça à côté, qui se volatilisent. Autant les instructions aussi qui viennent d'en haut n'arrivent pas en bas, autant l'argent qui vient de quelque part et n'arrive pas aux hommes des troupes. Et ça, je reviens à la responsabilité qu'évoquait Kalingé tout à l'heure. On en parle, mais il n'y a pas de solution à propos de cet argent. Il faut que le SIAD, par exemple, intervienne pour rappeler qu'il faut payer correctement les militaires. Donc, il y a une grave responsabilité quand même dans le chef de la hiérarchie militaire et au-delà de tout le gouvernement aussi qui doit quand même se pencher sur ça. Sinon, sans moyens, on aura bien brassé. Si on a un peu d'argent pour brasser les brigades, mais s'ils arrivent en Ituri, on parlait tout à l'heure, où on a saccagé les centres d'inscription et d'enrôlement, mais ces gens ne peuvent pas travailler sans moyens. Il faut bien qu'il y ait de l'argent. Et quand on en donne un peu, si la communauté internationale en donne un peu, il faut vraiment affecter cet argent à ce à quoi il a été, pourquoi il a été envoyé.
Justement, en début de semaine, les centres d'inscription de Boulé et de Manguiva dans l'Ituri ont été attaqués par des groupes armés non identifiés. Mais quelle est votre réaction par rapport à cela? Il y a une brigade qui a été brassée, qui doit aller sécuriser l'Ituri, et de l'autre côté, l'insécurité continue et il y a des problèmes au niveau des centres d'inscription. Il y a des milices qui s'attaquent à ces centres d'inscription. Quelle lecture faites-vous de cela, vous qui êtes à Lubumbashi, Kalenge, Yantoumbi?
Il y a un problème. Moi, je dis, cette histoire de violence en Ituri, mais ça rappelle bien la jungle qui existe dans ce pays, qui n'est pas naturellement à évacuer. Vous avez un problème. Même si on disposait, pour les militaires, pour la brigade brassée, on disposait de l'argent suffisamment, mais il faudra pour tous les autres militaires, pour tous les autres militaires, il faudra que la question du paiement et des conditions d'existence pour les militaires de l'armée soit réglée une fois pour toutes. Sinon, nous allons assister aux militaires de la même armée qui se tirent dessus parce qu'une brigade est privilégiée par rapport à une autre. Mais là, c'est une paire de manches. Une autre paire de manches, c'est celle qui concerne naturellement la gestion de ces violences. On attendait voir cette brigade passer son baptême de feu en amenant la paix en Ituri plutôt qu'en se confrontant aux problèmes sanitaires comme c'est le cas maintenant. Mais là, il y a un problème. C'est que là, même si on réussit à amener la brigade en Ituri, bon, ou plutôt ceux qui en restent en Ituri, il va falloir amener cette paix-là. D'ici Lubumbashi, nous avons l'impression que le cas de l'Ituri, c'est pas le seul, parce que même au Katanga, vous avez entendu parler déjà du triangle Manono-Mitoaba-Pueto, en passant évidemment par une grande portion du territoire de Malembankoulou, où des seigneurs de guerre sont en train de s'aimer la mort et la violence. Et là encore, le processus sera très, très gravement entaché de violence et même d'irrégularité, parce que certains endroits ne seraient pas couverts. Et donc là, en Ituri, on risque d'assister au même scénario que l'Ituri, où il y a un responsable du centre d'enrôlement qui est tué, qui est assassiné, tout simplement par des miliciens qui se croient le culot de faire n'importe quoi sans que quiconque puisse leur dire le contraire. Et donc là, c'est surtout la culture de l'impunité. On pensait que cette brigade allait mettre fin à cette culture de l'impunité en Ituri pour que les autres seigneurs de guerre apprennent par ce qui se serait passé là-bas. Mais curieusement, là, il y a déjà de blocages. Mais d'ici Lubumbashi, on pense que l'opinion, sans doute, pense qu'il faudrait qu'on mette les bouchées doubles pour que les choses marchent de ce côté-là, parce que c'est de cet exemple qui sortirait de l'Ituri que d'autres points de la province ou même du pays, notamment le Kivu, le Nord Katanga, qui sont comme des brasiers, pourraient être apaisés. Voilà donc un peu la lecture des faits à ce niveau.
Voilà, Arnaud Zeitman, il y a un grand défi qui attend cette brigade, cette 4e brigade, de même que les autres brigades qui sont déjà là-bas, mais on se rend compte qu'il y a des problèmes d'organisation, même au niveau de la base. Est-ce que ça augure des bons résultats de cette brigade?
Je pense qu'il faut aussi voir qu'est-ce qui reste sur le terrain aussi. La MONUC affirme avoir des armées, des milliers de miliciens en Ituri, qu'il ne resterait plus que 1000, 2000 peut-être miliciens en débandade, seulement dans des coins reculés, et non dans les villes. Bon, on s'aperçoit quand même que les attaques continuent dans ces lieux qui ont été endeuillés, qui ont été le théâtre de massacres au fait de la guerre en Ituri.
Donc vous pensez que la MONUC a des armées seulement Bounia, mais pas à l'intérieur de l'Ituri?
Je pense que la MONUC est parvenue à imposer une sorte de paix dans les villes, dans les centres urbains d'Ituri. Mais la région est très vaste et pour l'instant, les casques bleus ne sont pas parvenus à sécuriser tous les villages. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de déplacés qui n'osent pas rentrer chez eux. Les gens, ils connaissent le terrain, ils savent pourquoi ils ne rentrent pas chez eux. Donc, la sécurité n'est pas revenue en Ituri aujourd'hui. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas en 1999 ou en 2000, à l'époque où l'Ituri était vraiment à feu et à sang. Mais, cela dit, tenir l'enrôlement, l'enregistrement des électeurs dans des conditions pareilles, ça semble pas évident. Et on voit d'ailleurs la une du Potentiel d'aujourd'hui qui parle des élections hypothétiques au regard du nombre d'électeurs enregistrés. Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, vu l'état du pays. Est-ce que un enregistrement, est-ce qu'on peut poursuivre, est-ce que le processus électoral peut être poursuivi à marche forcée alors que le pays est dans un tel état de déliquescence que dès qu'on sort des centres urbains, même à Walungu, c'est pas loin de Bukavu, impossible de faire enregistrer les électeurs à Walungu. C'est quand même c'est très préoccupant, je pense, par rapport aux échéances qui ont été fixées. Alors maintenant, si les échéances, le juin 2006, qui est la date ultime constitutionnelle, c'est pas loin, c'est demain quasiment, juin 2006. À ce rythme-là, on va arriver en juin 2006, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir soit un processus électoral bancal, on va dire bon, ben on va aux élections comme ça, de toute façon, même si les gens votent dans les villes, et puis tant pis, soit il faut qu'il y ait un processus électoral qui soit un vrai processus électoral où les gens puissent voter partout, mais alors est-ce que ces élections pourront se tenir au sein même, dans le cadre même des échéances prévues par la Constitution? Tout ça, je pense, est très préoccupant, et si le gouvernement, la communauté internationale, tout le monde n'y met pas du sien et met pas les bouchées doubles, franchement, j'ai du mal à voir comment est-ce que les élections vont des élections en tout cas acceptables par tous, parce que c'est ça le problème. Il faudra que les résultats des élections soient opposables à tous. Comment est-ce que des élections qui seront opposables à tous les anciens belligérants pourront se tenir dans l'échéance prévue par la Constitution?
Claude Moukeba, il y a des problèmes d'insécurité et il y a aussi le processus électoral qui doit avancer. Quelle solution? Faut-il arrêter ou bien avancer tout en trouvant des solutions sur le plan sécuritaire?
Bon, on va va dire qu'il y a quelque temps, quand on parlait du 30 juin, avant la date du 30, il y en a qui disaient qu'il fallait arrêter, les autres disaient qu'il faut continuer. Je ne pense pas que je sois du côté d'arrêter les choses, mais je ne suis pas non plus du côté où on pense qu'il faut aller comme on va, parce que là, on vient de démontrer, par exemple, en Ituri, qu'il y a des problèmes. Là, Kalenge parlait du triangle, maintenant, non, là, dans le Katanga, qu'il y a des problèmes, qu'il y a encore des gens qui massacrent là-bas, on ne le savait peut-être pas. Donc, il y a quand même des sérieux problèmes comme ça autour du processus électoral. Il y a des problèmes purement techniques. La Walungu, c'est pas très loin de Bukavu, comme il le disait. On ne peut pas enregistrer là-bas. Au début, quand on lançait le processus, on a parlé d'un certain nombre de kits. Mais à ce jour, quand on parle des centres, ça paraît clairement que c'est nettement moins que ce qui a été prévu. Où sont passés les autres kits et tout ça. Donc, il y a un sérieux problème, je crois, qu'il ne faut pas arrêter le processus, mais il ne faut pas non plus aller tout en voyant qu'on va se planter. Il faut par moment arrêter pour revoir les choses autrement et puis avancer. Sinon, on va dans le panneau.
Et puis même d'un point de vue,
Oui, Arnaud.
même d'un point de vue politique, le boycott de l'UDPS, du processus, c'est un problème aussi. C'est quelque chose qui n'est pas énormément soulevé à part par, disons, les journaux proches de l'UDPS. Mais je pense que ça hypothèque quand même sérieusement les élections. Le fait que le parti qui représente quand même l'opposition historique dans ce pays, même si aujourd'hui la donne a changé, que l'UDPS n'a peut-être pas la même assise que celle que l'UDPS avait à l'époque de Mobutu, mais c'est quand même un parti qui compte dans ce pays. Le fait qu'il y ait un scrutin qui soit boycotté par un parti qui compte, c'est aussi quelque chose de, disons, qui affecte, je pense, le processus. Et je me demande comment est-ce que, ou même s'il y a la volonté de la part des anciens belligérants, de la part de la commission électorale indépendante, d'essayer d'intégrer un parti aussi important que l'UDPS dans le jeu électoral.
Alors, justement, je
Oui,
voulais ajouter sur le plan politique, parce qu'il y a depuis quelques jours l'UDPS qui ne participait pas au processus d'enrôlement, mais depuis hier, au moins, et M. Moubaké a dit qu'ils vont faire échec. Ça, c'est vrai que ce n'est pas, il y a pas,
c'est-à-dire, qu'est-ce que
ça
vous
veut
dites?
dire autrement que si ils étaient dans la phase passive de dire nous allons, on va participer, mais quand on dit que nous allons faire échec, j'entends par là qu'il y aura des actions contre le
Mais
processus.
ils vont faire échec à ce
Enfin,
processus.
on essaie d'interpréter, quand on dit on va faire échec,
Oui.
je me dis qu'on n'est pas passif, on va essayer d'agir. Là, c'est sur le plan politique, je reviens au processus électoral, mais sur le plan purement technique, quand vous voyez la prolongation qui a été obtenue quand même par la CEI, comme elle a été obtenue, parce que vous vous rappelez que l'article 96 parle de 2 fois 6 mois, on ne parle pas de 12 mois. Mais telles que les choses ont été faites, elles ont été faites pour 12 mois. Donc le calendrier que M. l'abbé Maloma l'avait proposé prend déjà les autres 6 mois, mais c'est aussi très serré. Donc si on s'en tient seulement au processus tel qu'il se tient aujourd'hui, s'il y a rallonge, parce que j'ai lisé ce matin, par exemple dans le Bas-Congo, on demandait une rallonge, on dit que c'est nécessaire là-bas, on demandera comme ça des rallonges presque partout, et on va les accorder. Il suffit seulement qu'on accorde et qu'on dépasse un tout petit peu, et nous sommes au-delà de juin 2006. Qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là si jamais on arrive en juin 30 2026? Il y a pas d'élection. Je rappelle ici, Claude, si vous permettez, que lorsque je suis venu sur ce plateau pour la première fois, il y a près de 2 ans comme ça, on débattait du bilan du gouvernement des transitions, les 100 jours, et ici même sur ce plateau, les amis et moi, nous disions déjà que les choses telles qu'elles avançaient, on risquait de prendre tous les 2 ans sans faire grand-chose. Mais nous n'étions qu'à 3 mois et puis on a vidé les 2 ans. Donc ça part toujours comme ça part, il faut bien qu'on y regarde, sinon on risque de se retrouver cette fois-là dans un vrai vide juridique parce que la Constitution ne prévoit rien au-delà du 30 juin 2006.
Voilà, Kalenge, Yantoubi, vous êtes à Lubumbashi, il y a des problèmes de sécurité qui mettent en difficulté le processus électoral, mais de l'autre côté, il y a aussi certaines lois qui restent encore en suspens au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la loi électorale, il y a la loi sur l'amnistie qui pose problème, il y a la loi sur le statut de l'opposition, sur le statut des magistrats. Vous trouvez que est-ce que c'est une raison de plus qui justifie le fait que Olivier Kamitatou, le président de l'Assemblée nationale, ait suggéré la convocation par le chef de l'État d'une session extraordinaire du Parlement pour justement statuer sur les lois qui sont encore en suspens?
Naturellement, là, c'est une raison pour, sur le plan politique. Mais si on prend la réalité du point de vue d'observateur, on se rend compte que le Parlement a perdu beaucoup de temps. Il a fallu que le temps passe tellement pour que après on enclenche des débats marathons, adopter telle loi et tout et tout. Et maintenant là, c'est une session extraordinaire pour toutes ces lois-là.
Mais ils disent au niveau du Parlement qu'ils ont quand même accompli un exploit. Ils ont en un rien des temps adopté un certain nombre de lois quand même qui montrent qu'ils ont bien travaillé.
Un exploit, mais parce que Claude Moutéba venait de le dire, il a fallu d'abord perdre les 2 ans presque, et c'est vers la fin qu'on a commencé à le faire en séance marathon. C'est ça le problème. Maintenant là, quand on convoque le Parlement en session extraordinaire, c'est pour examiner les lois. Bon, c'est bien, mais parce qu'il faut que le processus soit doté de tous les mécanismes juridiques possibles, de tous les outils juridiques possibles pour garantir l'indépendance d'une élection démocratique, c'est-à-dire juste, équitable, transparente, etc. Mais sans ces lois-là, prenons la loi électorale, mais ce serait tout à fait bidon si une élection se faisait avec une loi électorale élaborée à la va-vite. Il faut donc l'examiner à fond et pour permettre au processus de démarrer, disons, de continuer le chemin. Mais je voudrais peut-être rentrer un tout petit peu en arrière sur le problème de la CEI. Mais au Katanga, la CEI connaît de graves difficultés. Et là, une prolongation serait presque inévitable. Mais le problème qui va se poser, c'est qui va décider de cette prolongation? La CEI, peut-être, mais il faut une volonté politique. On a parlé tout à l'heure de l'UDPS qui est en dehors des institutions. On va organiser une loi électorale, une loi sur les partis politiques sans des grands partis comme l'UDPS et tant d'autres partis. Mais là, ça va décrédibiliser le processus. Mais il y a non seulement l'UDPS, parce que l'UDPS est signataire des accords de Pretoria, hein, mais il y a aussi d'autres partis qui ne sont ni signataires des accords de Pretoria, mais ni non plus alliés aux partis signataires des accords de Pretoria. Voilà. Ici au Katanga, vous avez certains partis comme la CONACO d'André Tshombe qui a des petits pépins avec la justice à Kinshasa, dont on dit que c'est une machination. Mais là, vous verrez que le processus, si on ne parle pas un dialogue franc, le processus aura toujours quelque part des gens qui vont le contester. Et donc, oui, il faut que les politiques puissent engager un dialogue franc d'abord, bien, avant de continuer l'élaboration des lois et d'autres outils pour l'aboutissement de la transition.
Voilà, on va d'abord écouter Olivier Kamita, qui estime que l'urgence s'impose, il faut à tout prix convoquer une session extraordinaire pour traiter des lois qui sont encore en suspens. On l'écoute, il est au micro de Georges Kamoudjova, notre confrère.
La nécessité s'impose ou s'imposerait parce que le temps qui nous est imparti pour la fin de la transition est très court et nous avons encore énormément de textes qui doivent être adoptés. Je n'en citerai que quelques-uns, la loi sur l'amnistie, bien entendu, la loi électorale, la loi sur le statut de l'opposition, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut des magistrats, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc il y a 7-8 textes importants qui nous permettent de redéfinir un cadre politique, un cadre juridique nécessaire à envisager l'après-élection dans les meilleures conditions possibles.
La loi électorale, ça occupe moins d'importance ?
La loi électorale, elle est importante. J'ai d'abord cité la loi sur l'amnistie parce qu'elle est prête, parce que nous sommes maintenant au vote article par article de ce projet de loi. Et manifestement, c'est un moment important puisqu'il nous reste quelques semaines avant la fin de la transition et bien entendu, l'amnistie est incontournable.
Arnaud Zeitmann, la loi sur l'amnistie en principe devait être adoptée dans le premier semestre après le début de la transition, mais le PPRD a gelé un peu l'adoption de cette loi. Il y a les procès des présumés assassins de Laurent Désiré Kabila, il y a des gens qui ont été condamnés. Peut-être que cette composante craint que si cette loi est adoptée, peut-être que ces gens-là pourraient bénéficier d'une certaine amnistie.
Bon, d'abord, j'aimerais bien revenir sur une chose, sur le fait que M. Kamitatou parle de quelques semaines avant la fin de la transition. Je pense que l'expression
Oui.
est intéressante parce que c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps.
Oui. À peu près
On s'aperçoit aussi.
quatre mois avant la fin de la première prolongation de la
Ouais.
transition. Oui.
On s'aperçoit aussi que le Parlement est en vacances. Ça fait de longues semaines que le Parlement est en vacances. M. Kamitatou aussi d'ailleurs était en vacances. Donc bon, c'est un peu facile de s'octroyer 8 semaines de vacances et puis revenir et dire ah oui, ça y est, maintenant les gens ne font rien, il faut convoquer, ainsi de suite. Bon, vu les circonstances, je me demande s'il était vraiment nécessaire pour tous les députés de s'accorder comme ça un aussi long temps de repos avant la suite des événements.
Mais est-ce qu'ils n'en ont pas le droit? Ils n'ont pas droit aux vacances?
Bon, écoutez, le droit, ils sont quand même là pour faire avancer un processus. Il y a 60 millions de citoyens congolais qui comptent sur eux pour que le processus avance. Ils ont des mandats, ils ont des responsabilités. Il me semble que ce sont des choses qui passent avant le droit ou la volonté de prendre des vacances. Moi, personnellement, j'ai pas pris de vacances. Je fais mon métier de journaliste et puis c'est tout. Voilà, je pense c'est une question de responsabilité d'abord. Maintenant, pour la question de la loi sur l'amnistie, oui, effectivement, il y a une loi sur l'amnistie qui n'arrange pas grand monde, sans doute, parmi les 5 anciens rebelles qui dirigent ce pays, le président et 4 vice-présidents, tous rebelles d'une époque ou de l'autre. Aujourd'hui, on parle d'une loi sur l'amnistie, effectivement, c'est un dossier un petit peu sensible, bon, c'est
Mais c'est
évident.
quand même important pour la réconciliation nationale, pour qu'on aille aux élections. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Sinon, il y a des gens peut-être à l'est du pays qui ne pourront pas venir ici.
Oui, sans doute que c'est important. Moi, il me semble que la loi électorale aussi est très importante, parce que vous savez qu'une loi électorale peut déterminer les résultats d'élections. Selon la manière dont on découpe les circonscriptions électorales, si on décide que telle partie de la République représente à tel degré de représentation dans le découpage au final et la manière dont les voix sont réparties, par exemple, selon qu'on décide un système majoritaire ou un système à la proportionnelle, il y a énormément de manières d'écrire, de rédiger une loi électorale qui arrange toujours les uns ou les autres. Donc c'est un dossier éminemment politique, ce dossier de la loi électorale. Donc ça aussi, il me semble que c'est quelque chose d'important.
Mais cette loi électorale ne peut pas être adoptée dès lors qu'on n'est pas encore passé au référendum constitutionnel. Mais il y a des gens, il y a certains politiciens qui disent qu'on peut contourner un peu la difficulté, disons trouver une solution politique, examiner et adopter cette loi électorale, même avant le référendum constitutionnel, vu l'urgence de la situation. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Moukeba? Alors qu'en principe, ça devait être le contraire. La loi électorale devrait se référer au pays tel qu'il sera tracé, peut-être par la nouvelle constitution.
Mais c'est cela la logique, Claude, et je ne vois pas comment on peut faire ça autrement. Je crois, à mon sens, que ce serait quand même un non-sens d'adopter la loi électorale avant l'adoption de la Constitution. Imaginons, par exemple, et les gens n'en parlent pas beaucoup, imaginons, par exemple, que les gens disent non à cette Constitution. Si les gens disent non à cette Constitution et la loi électorale, je suppose que si on décide de l'adopter avant la Constitution, de discuter de l'adopter avant, elle sera faite en fonction du projet de Constitution. Et si, comme par hasard, et puis bon, les gens disent non à la Constitution, je crois qu'il faut attendre quand même. Je crois que c'est dans cet esprit. Je n'étais pas là, je n'étais pas avec le président de l'Assemblée nationale, mais je crois, à mon sens, que c'est comme ça qu'il parle d'abord de la loi sur l'amnistie, parce que la loi électorale ne peut qu'attendre l'adoption de la Constitution et le référendum. Il est prévu justement pour le mois de novembre, vers
En
la fin.
principe, mais avec tous ces reports sur l'enrôlement,
Enfin,
ça risque
on
de...
s'en tient d'abord à ce calendrier. Si on considère seulement cela. Si on considère seulement ça, la première possibilité, donc vers fin novembre, et pourtant, on parle là de la convocation d'une session extraordinaire avant celle d'octobre. Vous comprenez qu'on ne peut pas discuter de la loi électorale avant l'adoption qui est prévue en principe initialement pour fin novembre.
Kalenge Yan Yantoui, vous êtes à Lubumbashi. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution politique en examinant la loi électorale avant même le référendum constitutionnel? Question de gagner le temps.
naturellement, puisque le pays nous a habitués à des gens de compromis, mais qui ne sont pas tellement très loin de la compromission. Je trouve que les politiques vont toujours s'arranger pour adopter vaille que vaille la loi électorale avant l'adoption de la Constitution. Ce serait d'ailleurs payant pour eux, parce que ce serait mettre la population, ou plutôt le peuple, le dos au mur, lui dire, bon, acceptez cette constitution ou autrement, c'est un scénario catastrophe, c'est-à-dire, si vous n'acceptez pas la constitution, tout sera bloqué, donc le pays n'avancera pas, et c'est une occasion unique, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est ça qu'on nous a fait entendre depuis les débats fédéralisme, unitarisme, tout et tout. On a présenté cette constitution hybride comme la seule issue possible si on refusait cette constitution. Et donc, ça aurait été la catastrophe. Voyez-vous, je trouve que les politiques vont toujours s'arranger pour adopter cette loi électorale, peut-être avant l'adoption de la Constitution. C'est pas à exclure. Mais je voudrais revenir sur la loi de l'amnistie. Personnellement, ça c'est un avis personnel, je trouve que là, il y a un danger très évident, c'est que des personnes présumées impliquées dans tel ou tel autre exactions de guerre durant toutes les cinq années de Brest que le pays a connues vont s'octroyer une auto-amnistie, voyez-vous. Ce sont ces excellences et ces honorables autoproclamés qui ont tué, saccagé, pillé, volé, violé les femmes et les jeunes enfants et les hommes, les vieillards dans le pays tout entier, qui l'ont mis à feu et à sang, qui vont s'octroyer une auto-amnistie. Personnellement, je trouve que il aurait fallu, hein, le bon sens aurait exigé qu'on envoyât cet examen de la loi d'amnistie après l'installation de la Troisième République, c'est-à-dire ce sont les institutions démocratiques issues de la volonté populaire qui décideront du sort qu'il faut réserver aux coupables, ou disons aux présumés coupables des atrocités, parce qu'on ne doit pas jouer indéfiniment au cache-cache avec l'histoire. Et donc il aurait fallu peut-être instituer une sorte de commission vérité et justice, ou plutôt vérité et châtiment, c'est-à-dire okay. que les coupables des atrocités puissent avouer leurs crimes et puis leurs exactions et en plus qu'ils soient punis, c'est-à-dire qu'ils subissent la rigueur de la loi, c'est ça. On voit que le Congo est un pays où on voudrait amnistier des criminels. Les criminels passent par les tribunaux.
Hein. S'il te plaît, nous arrivons presque, le temps nous est vraiment compté, nous passons à la dernière partie de notre émission. Voilà, les combattants hutus rwandais opérant à l'est de la République démocratique du Congo ont un mois pour mettre en application leur engagement de Rome pour un retour volontaire au Rwanda. C'est là une décision majeure adoptée à la tripartite Rwanda-Ouganda-RDC qui s'est clôturée hier à Kigali au Rwanda. Et la délégation congolaise à cette tripartite a également demandé que Jules Mutebusi et les 350 hommes de troupes qui l'accompagnent dans son exil actuel au Rwanda, ainsi que les leaders des milices de l'Ituri présents en Ouganda, soient extradés au Congo pour qu'ils soient jugés. Suivons d'abord le reportage de notre confrère Martin Sebujangwe qui a couvert cette tripartite pour le compte de la Radio Okapi.
Selon les communiqués signés par les trois parties, le gouvernement de la RD Congo devra poursuivre ses contacts avec l'FDLR afin d'obtenir que ce dernier mette en application la déclaration des Roms d'ici fin septembre 2005. Au-delà de cette date, poursuit les mêmes communiqués, l'FDLR s'exposeront à de graves conséquences. Les communiqués ne disent cependant pas plus précisément les types de conséquences et les moyens pour neutraliser les FDLR. Selon Mme Soline Nyirahabimana, ministre à la présidence rwandaise, les parties concernées avec la communauté internationale feront pression pour que le désarmement soit effectif et qu'il y ait rapatriement des combattants FDLR. La ministre rwandaise a par ailleurs indiqué que tous les autres détails seront finalisés au sein des sous-commissions. La tripartite ajoute également que les pays concernés vont tout faire pour désarmer tous les autres milices opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, la réunion de Kigali a annoncé la mise en application des mécanismes juridiques d'extrader les chefs de milices terroristes et autres personnes accusées de crimes dans la région.
Arnaud Zeitman, vous êtes allé même dans les camps des FDLR dans le sud Kivu. Est-ce que vous pensez que les FDLR peuvent être intimidés par cet ultimatum?
Intimidés en quelque sorte, oui, parce que effectivement le camp Ninja où je me suis rendu non loin de Walungu a été démantelé à la suite d'un ultimatum qui a été donné par la MONUC. C'était vraiment le camp opérationnel, c'était là que les chefs des FDLR étaient basés. notamment l'aile politique et puis l'aile politique sur le terrain et l'aile militaire. La plupart que j'ai rencontrés étaient en fait des anciens des forces armées rwandaises. Hein. Ce n'étaient pas des ex-interahamwés comme on le dit souvent. Ce n'étaient pas non plus des enfants comme on le dit souvent. On dit souvent oui, les FDLR, la plupart étaient trop jeunes pendant le génocide et tout. Les chefs, en tout cas, c'était des ex-forces armées rwandaises. Les troupes, beaucoup étaient des combattants tout à fait en âge de combattre et qui étaient sans doute en âge de combattre il y a quasiment 10 ans.
Et qui étaient bien armés.
Et qui était armé, absolument, oui. Maintenant, est organisé avec une chaîne de commandement, avec des militaires de formation, donc au niveau de l'encadrement. Donc, c'est quand même une armée qui a l'air organisée. D'ailleurs, l'armée congolaise en sait quelque chose, puisque c'est eux qui ont combattu aux côtés des forces armées congolaises pendant la guerre. On se rappelle de la bataille qu'il y a eu en 1999, je crois, vers juillet, au moment des accords de Lusaka. Il y avait eu la bataille qui avait opposé les forces ougandaises et les forces de Jean-Pierre Bemba aux forces armées congolaises. C'était à l'époque où il y avait les Tchadiens, 300 Tchadiens avaient été tués, si vous vous rappelez. C'était dans l'Équateur. Et puis, je crois que c'est vers Businga, il me semble. Et puis, il y avait eu, moi, je me rappelle, j'étais allé à Agbadolité, et puis vers Mobaye à l'époque. Et les gens qui ramaient sur le barrage de Mobaye entre la RCA et la RDC, disaient avoir transporté des centaines de Hutus rwandais en fuite. Donc, les Hutus rwandais ont joué un rôle dans cette guerre. C'est un secret pour personne. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu le bâton dont tout le monde aurait bien se débarrasser. Il se fait qu'ils se sont engagés à Rome à rentrer, mais dans la déclaration de Rome, il y avait la notion de la mise en place de mesures d'accompagnement d'un comité international d'accompagnement.
Ça n'a pas été mis en place.
Non, ça n'a pas été mis en place. Et l'aide politique du FDLR demande la mise en place d'un tel comité. Les hommes sur le terrain, c'est vrai, n'ont pas très envie de passer devant les Gacaca, les tribunaux populaires rwandais, et puis les leaders politiques de la rébellion disent nous ne sommes pas des génocidaires, et c'est vrai pour certains d'entre eux, nous ne sommes pas des génocidaires, il n'y a pas de place pour nous au Rwanda, nous voulons une ouverture politique au Rwanda afin que nous puissions exister comme parti politique au Rwanda. Et là, moi je crois que la communauté internationale, c'est peut-être pas au Congo de faire ça, j'ai parlé d'ailleurs avec M. Gonda hier, qui a participé à la réunion tripartite, qui est l'ambassadeur spécial représentant le chef de l'État, et qui disait, bon, ce n'est pas à nous de faire pression pour ce comité international d'accompagnement, ça serait un peu comme si on s'ingérait dans les affaires rwandaises. Bon, c'est un argument. Maintenant, la communauté internationale a l'air très timide face au Rwanda. On sait qu'il y a eu un génocide au Rwanda, on sait que la communauté internationale n'a pas bougé au moment du génocide, n'a pas reconnu la véracité du génocide lorsqu'il était en cours, n'est pas intervenu, n'a pas stoppé, n'a pas pêché par non-assistance à personne en danger, voire par même soutien au régime génocidaire pour la France avant le génocide, même pendant les premiers jours du génocide. Donc là, il y a la communauté internationale a quelque chose à se reprocher par rapport au Rwanda, la conscience est salie, et on dirait que la communauté internationale est aujourd'hui timide face aux autorités de Kigali. Maintenant, il y a un problème, excusez-moi, je finis là-dessus, il y a un problème, c'est que on peut se demander comment est-ce que la stabilité peut revenir dans les Grands Lacs sans qu'il y ait un espace pour le FDLR, pour qu'ils puissent aussi peut-être que ceux qui ne sont pas trempés dans le génocide, que les Hutus rwandais puissent aussi être représentés. Et par rapport aux élections au Burundi, à la mise en place du président burundais aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même dans une nouvelle ère dans la région des Grands Lacs, et ça sera difficile d'avoir une vraie stabilité s'il n'y a pas un espace politique ouvert pour une partie de la population rwandaise qui ne se sent pas représentée dans le régime actuel.
Claude Mukeba, est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais est assez timide vis-à-vis de ces miliciens Hutus rwandais qui, pour certains d'entre eux, ont combattu aux côtés des ex-forces armées congolaises?
Bon, il y a lieu de préciser d'abord que quand aujourd'hui nous disons gouvernement congolais, ça veut dire la structure 1+4 qui reprend tout le monde. Et il y a quelque temps, quand on dit que ces gens avaient combattu, c'était aux côtés du gouvernement, ex-gouvernement.
Ex-gouvernement, donc, de la composante ex-gouvernement.
Et vous vous rappelez aussi qu'il y a toujours eu entre les différentes composantes une querelle quand même autour de la présence des interahamwés. On a parlé des interahamwés qu'on aurait vu dans le Bandundu et la composante ex-gouvernement. Le gouvernement ici a dit qu'il n'en avait jamais existé et pourtant par après on a compris quand même que ces gens étaient sur place. Je crois que c'est ça, les gens qui ont aidé à un moment donné dont on devrait se débarrasser. Mais à ce jour, la tripartite, je crois qu'elle devrait peut-être aider à ça. Ces gens ont dit déjà il y a quelques temps qu'ils voulaient rentrer et ils ont demandé qu'on mette en place un comité international pour accompagner cela. Cela n'avait jamais été fait. Il y a eu une autre rencontre, je ne sais pas, à Lubumbashi, mais on a finalement l'impression que les rencontres viennent, repartent, et puis on ne trouve pas beaucoup de solutions parce que, apparemment, telles que les choses, quand on voit le communiqué qui intime l'ordre à ces gens de quitter avec un ultimatum cette fois-ci, au-delà de l'ultimatum, qu'est-ce qui va se passer?
La tribune de la presse pour ce soir s'est terminée. Nous avions reçu Arnaud Zeitman, correspondant de la BBC en RDC, Claude Moukeba, journaliste à la télévision nationale, ainsi que notre confrère Kalenge Yann Yantumbi, directeur de la radio Fontaine à Lubumbashi et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Merci, bonne soirée et à lundi prochain.